Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, tous les jours de la semaine de 6h à 6h30 à la radio ou quand vous voulez en passant par l'abonnement au podcast. Tous les vendredis, on parle de l'actualité de la bande dessinée et aujourd'hui, la question du jour, c'est comment fabrique-t-on les super-héros en papier dans l'empire des mangas? On se pose la question car aux dernières nouvelles, une intelligence artificielle a créé un manga signé entre guillemets, Osamu Tezuka, c'est-à-dire le grand Tezuka qui a disparu en 1989. En fait, si on a bien compris le communiqué de son éditeur, cette bande dessinée aurait été conçue par une intelligence artificielle à partir des 65 œuvres de Tezuka. Mais en attendant de lire Paiden, puisque c'est ça le titre de ce manga intelligence artificielle Tezuka sorti au Japon le 27 février dernier, et alors que la série animée Jojo's Bizarre Adventure déboule en fanfare sur Netflix, cette série animée n'est que l'adaptation du manga éponyme de Hirohiko Araki et dans les premières publications en bande dessinée remonte à l'hiver 1986, on se pose donc ce matin la question de savoir pourquoi les éditeurs japonais préfèrent miser sur les valeurs sûres du passé et les super-héros de l'âge d'or de la bande dessinée nippone plutôt que d'en inventer d'autres. Nos invités ce matin sont Nicolas Telop, auteur d'un livre qui vient de paraître aux Impressions Nouvelles, consacré à Astro Boy, le super-héros, le super-robot créé par Osamu Tezuka, et l'éditeur Grégoire Hello, spécialiste du manga, qui vient d'éditer Jump, l'âge d'or du manga, un témoignage de Hiroki Goto, très éclairant sur la manière dont on fabrique aujourd'hui les super-héros au pays des mangas. Corinne Amar et Cyril Marchand à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation, Philippe Mercher au mixage, le réveil culturel spécial manga, c'est parti.
Le réveil culturel, vendredi, bande dessinée.
Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée, mais aujourd'hui, on va parler de la fabrique des super-héros en papier au Japon, c'est-à-dire dans le monde des mangas, toutes périodes confondues. D'Astro Boy à One Punch Man, comment on fabrique ces super-héros? Alors bien sûr, pour Astro Boy, le petit robot inventé en 1952 par Osamu Tezuka, gros succès d'ailleurs de la série SF, et puis bien sûr de son adaptation en dessin animé, c'est plutôt avec vous Nicolas Telop qu'on va en parler, puisque vous venez de publier aux Impressions Nouvelles Astro Boy, Cœur de Fer, et puis on évoquera d'autres héros de shonen, de manga pour garçons, avec vous Grégoire Hello. Grégoire Hello, vous venez de publier un très beau livre, Jump, l'âge d'or du manga. En fait, ce sont les souvenirs d'un des éditeurs de cette revue emblématique des mangas, Hirohiko Goto, c'est bien ça?
Tout à fait.
C'est un des grands rédacteurs en chef donc de cette revue, vous allez nous en parler, Weekly Shonen Jump, la plus emblématique, ça je l'ai dit, celle qui a donné naissance à des blockbusters de la bande dessinée Nippon, Dragon Ball Z, Naruto, la série One Piece. Alors ce livre passionnant nous raconte de l'intérieur comment fonctionne la fabrique des héros au pays des mangas, mais d'abord un mot sur le métier d'éditeur. Hirohiko Goto, est-ce qu'il était aux commandes d'ailleurs de ce fameux Weekly Shonen Jump quand l'hebdomadaire tirait jusqu'à 6 millions d'exemplaires, c'était l'âge d'or, c'était les années 80. Alors, est-ce qu'il ressemble à ces homologues de la bande dessinée franco-belge? Est-ce qu'on peut dire que Hirohiko Goto, c'est le Yvan Delporte? Yvan Delporte, bien sûr, qui était le rédacteur en chef du journal Spirou de 56 à 68, c'est-à-dire l'âge d'or de cet hebdomadaire, ou pour parler d'un autre exemple et d'un autre grand scénariste, Goscinny, dirigeant pilote. Est-ce qu'ils font le même métier?
Alors pas exactement, parce qu'il y a vraiment des spécificités dans le monde de l'édition japonaise qui seraient d'ailleurs pas forcément très bien vécues chez nous. Comme l'explique Hirohiko Goto dans son livre, les spécificités du manga, c'est que chaque semaine, les dessinateurs doivent montrer à leur responsable éditorial ce qu'ils comptent faire la semaine suivante.
C'est pas l'équivalent d'un éditeur en France?
C'est pas non, parce que en fait, par exemple, prenons la revue Jump. Dans la revue Jump, toutes les semaines, il y a une vingtaine de chapitres d'une série différente. Il va y avoir un chapitre de Dragon Ball, Nicky Larson, Olivier Tom, etc. Et chacune de ces séries est pilotée par un responsable éditorial qui a la charge d'encadrer l'auteur. Et donc, chaque semaine, l'auteur va montrer à son éditeur un storyboard et ils vont en discuter ensemble et l'auteur va attendre les retours de l'éditeur. L'éditeur va lui dire non, alors ce personnage-là, les gens l'aiment pas, donc faudrait que tu le tues. Là, c'était plutôt dramatique, donc la page d'après, faudrait que tu mettes un gag. Voilà. Et ils vont affiner ensemble l'efficacité narrative de chaque chapitre.
Alors, ce que vous dites, Grégoire Hélot, c'est que les auteurs ont moins de marge de manœuvre qu'en Europe, par exemple.
Exactement. Mais ils l'acceptent, c'est-à-dire que c'est pas gratuit. Les conseils que leur donnent leurs éditeurs, c'est dans un souci d'efficacité. Parce que au Japon, si votre série fonctionne pas, elle est coupée avant la fin. Donc, le but d'un éditeur, c'est de garder sa série en route le plus longtemps possible, et donc de donner les meilleurs conseils à son auteur pour gagner la popularité des lecteurs.
Et enfin, pour terminer avec cette comparaison, Yvan Delporte ou Goscinny étaient des scénaristes. Est-ce que les grands rédacteurs en chef des magazines de manga au Japon, comme Hiroki Goto, sont des scénaristes ou est-ce qu'ils viennent plutôt d'une école de commerce?
Ils sont... Non, c'est vraiment... alors, ils ont des parcours assez disparates, mais les grands éditeurs, d'une manière générale, ont fait des études de lettres. Par exemple, Hiroki Goto explique que lui, il voulait rentrer chez l'éditeur japonais qui publie le magazine Jump, mais lui, ce qu'il voulait, c'est intégrer la section roman. Ouais. Il se voyait pas du tout, ou alors les magazines, il se voyait plus journaliste qu'éditeur. Mais c'est... Je sais pas si on peut vraiment dire qu'ils sont scénaristes, mais ils ont en tout cas une âme de conteur, dans la mesure où ils sont toujours capables d'expliquer à leur auteur pourquoi telle chose fonctionne et l'autre fonctionne pas. Lui donner aussi des... Par exemple, quand l'auteur de Dragon Ball est sec, il dit « Oh, je veux arrêter ma série, j'ai plus d'idées », c'est la responsabilité de son éditeur de lui dire « Non mais attends, peut-être que tu pourrais dire que le héros il vient de l'espace ou qu'il se fait attaquer par des robots ou des... » Voilà. Et donc c'est le rôle de l'éditeur aussi de relancer l'auteur quand il est un peu à bout de souffle, quand sa capacité créative est un peu épuisée.
Donc il est vraiment au centre, l'éditeur, hein, de ce processus créatif de manga. C'est ce qui explique. Donc Hiroki Goto, c'est ce que vous voulez de nous dire aussi, Grégoire Hélot. Et on se rend compte que ça a toujours existé dans le monde des mangas. Nicolas Telop, Astro Boy, par exemple, c'est un personnage mis en avant par un éditeur et pas par l'auteur.
Ah oui, tout à fait. Et c'est très éclairant ce qui vient d'être dit, parce que c'est exactement ce qui est arrivé à Tezuka pour Astro Boy. Parce qu'à l'origine, Astro, il est apparu dans une série qui s'appelait L'Ambassadeur Atom. Atom sans E à la fin. Et qui racontait les aventures d'une... c'était une série de science-fiction assez traditionnelle, avec un monde parallèle qui se rencontrait avec le nôtre, etc. Et Astro, c'était un personnage très secondaire, un robot un peu burlesque, clownesque, qui était tourné en ridicule, qui apparaissait comme une sorte de pantin comique, quoi. Et très rapidement, la série, on s'aperçoit qu'elle ne prend pas. Et le magazine qui s'appelait Shonen décide d'arrêter la publication de l'ambassadeur Atom. Donc Tezuka imagine une fin, une conclusion un peu en catastrophe. Et le magazine lui suggère aussi de reprendre finalement ce personnage très secondaire d'Astro pour en faire un personnage principal d'une série régulière dans le magazine. On est en 51 et pendant toute l'année 51, l'ambassadeur Atom est publié et en 52 apparaît la première aventure d'Astro Boy en tant que personnage principal.
Alors le titre de votre ouvrage analytique autour d'Astro Boy, c'est Astro Boy, cœur de fer, c'est aux impressions nouvelles. Je rappelle, c'est un beau titre, hein, le fait d'associer cœur avec fer, c'est un peu ça Astro Boy, c'est-à-dire comment humaniser un super-héros qui à la base était un robot. C'est ce que va faire Tezuka durant 10 ans, c'est ça. L'évolution va durer un peu plus de 10 ans du personnage. Il sera même marqué par les grands changements de 68, comme on peut l'apprendre à travers votre texte.
Oui, tout à fait. Mais le changement, il se fait déjà malgré lui, parce que le directeur de Shonen, pour le convaincre de faire un personnage vraiment attachant pour les lecteurs du magazine, lui dit qu'il faut prendre Astro non pas comme un robot, mais comme un enfant. Tezuka est effondré parce qu'il s'imagine pas comment il peut faire ça, parce que pour lui c'est vraiment un personnage ridicule, un personnage froid. Il a du mal à se projeter dans cet univers-là. Et à partir du moment où on lui dit, mais de toute façon les lecteurs, ils ont déjà acquis le fait qu'Astro c'était pas seulement un robot, c'était aussi un enfant, eh ben il va développer cette image un petit peu ambiguë. Qui effectivement va courir pendant une grosse dizaine d'années sur l'indistinction qu'il y a finalement chez lui entre le véritable enfant et le pur androïde robot de science-fiction, quoi.
pour reprendre un peu la thématique de ce réveil culturel, comment on fabrique des super-héros dans le monde des mangas? Là, on sait à travers ce que vous venez de dire que c'est vraiment un travail d'éditeur. Les éditeurs sont très présents, mais ces super-héros, ils naissent aussi dans un contexte particulier. Par exemple, si on doit parler d'Astro Boy avec vous, Nicolas Télope, vous dites que c'est un personnage qui, comme tous les autres héros de bande dessinée, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, que ce soit Superman, Batman aux États-Unis ou Tintin, ce sont des orphelins parce que c'est un monde qui sort d'une guerre et même de deux guerres.
Oui, alors après la figure de l'orphelin, c'est un archétype qui remonte à l'origine du monde quelque part. Les récits qui mettent en scène des orphelins, il y en a partout dans les mythes, dans la Bible. Enfin, vraiment, c'est omniprésent. Et effectivement, dans le monde de la bande dessinée, il y a quelque chose qui se passe au XXe siècle où la plupart des héros classiques qui sont créés sont des orphelins. Bon, Tintin, il est pas nommé comme tel, mais on parle jamais de sa famille et les personnages qui vont lui tenir compagnie sont des pères de substitution. C'est Haddock, c'est Tournesol. Et après les super-héros, c'est évident quoi. Batman, Superman sont tous des orphelins et voire même ils sont super-héros parce que ils sont orphelins. C'est parce que ils ont perdu leur famille, c'est parce qu'ils n'ont plus de repères, c'est parce que il faut trouver leur place dans le monde. Qui choisissent de prendre un costume super-héroïque, une identité secrète, et puis de venir à la rescousse de la veuve et de l'orphelin, quoi.
En éditant les mémoires de Hiroki Goto, on se rend compte aussi de l'importance qu'ont les lecteurs quant à la fabrication d'un héros. En fait, c'est encore plus poussé que le système hollywoodien qui faisait visionner ses films avant de les monter définitivement. Mmh. Là, c'est carrément le point de vue des lecteurs, à partir d'un questionnaire plutôt subtil, que vont se dégager les caractéristiques d'un personnage de bande dessinée.
Oui, alors c'est vrai que c'est assez révolutionnaire quand le magazine Jump décide de faire une enquête chaque semaine très très précise avec des questions très pointues. On demande aux jeunes lecteurs, aux enfants, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te fait peur. Et ils se collectent comme ça une base de données qui aurait coûté des millions et des millions à mettre en place d'une manière totalement classique. Et ils ont un instantané chaque semaine de la jeunesse japonaise. Et à partir de là, ils vont affiner ce qu'ils vont proposer aux enfants en rapport de ce qui est à leur goût et de ce qui est à la mode aussi. Donc ça va leur permettre d'avoir effectivement des héros qui sont à la carte dans l'air du temps. C'est-à-dire que on évoquait l'après-guerre, quand le magazine Jump démarre, les héros principaux du magazine, bon, ça va être les élèves insoumis de l'école impudique, qui est le premier grand manga du créateur de Goldorak, où voilà, pendant mai 68, parce qu'il y a eu aussi mai 68 au Japon, on ignore beaucoup, mais eux aussi ils ont eu leur révolte étudiante. Et voilà, c'était un manga qui a fait énormément de scandales parce que c'était un manga qui se déroulait dans un collège où les professeurs tapaient les garçons et mataient sous les jupes des filles. Et du coup, les héros devaient organiser la révolte des élèves contre les profs qui étaient des salauds. Et c'est un manga qui a fait énormément de parler de lui parce qu'on ne pouvait pas manquer de respect au corps enseignant. Et dans ce magazine-là, on le faisait. Et le deuxième manga qui était vraiment très très important dans le Jump, c'était un manga qui parlait de voyous. Voilà, c'est après-guerre les voyous, les va-nu-pieds, ceux qui sèchent l'école pour se bagarrer, les bad boys, etc.
Mais là, on reste dans des propositions d'auteurs. Ce sont pas des demandes de lecteurs.
Quelque part, si, parce que ce sont aujourd'hui les mangas qui restent. Mmh. C'est-à-dire que tous les mangas qui ont été oubliés, vous sortez un nouveau manga. Bon, si les lecteurs disent non, au bout de 3-4 chapitres, hop, vous êtes dégagés. Ça, je vous parle des mangas qui, encore aujourd'hui, restent dans les mémoires. S'ils restent dans les mémoires, c'est parce qu'il y a eu plus d'une dizaine de chapitres et que les lecteurs les ont validés. Il y a aussi les mangas qui ont évolué au fur et à mesure de leur publication.
Des lecteurs, ouais.
Bien entendu. Hiroki Goto parle d'un manga qui est très intéressant. Enfin, l'exemple est très intéressant. C'est Le Loup des Circuits. Donc, c'est un manga qui se passe dans l'univers de la course automobile. Bon, le manga marchait pas très bien. Donc ils ont décidé de l'arrêter. Et au moment où ils décident de l'arrêter, le Japon gagne un grand prix. C'était assez exceptionnel. Et d'un seul coup, paf, la popularité du manga explose. Parce que d'un seul coup, il y a un emballement autour des courses auto. Et à partir de là, on dit, ah bah non, forcément, on va continuer le manga puisque les gens l'aiment. puisque maintenant les gens s'intéressent aux courses auto et d'un seul coup, tous les petits garçons japonais rêvent de devenir pilotes de course. Et à partir de là, le manga se transforme complètement et ça devient une histoire de rivalité. C'est comme ça.
Fabrique des super-héros dans l'industrie des mangas ce matin dans le Réveil culturel en compagnie de l'éditeur Grégoire Hello et du journaliste Nicolas Télop. Dragon Ball Z, bien évidemment, mais avant la consécration par le film d'animation, parce que je suppose que avant de devenir un film, une série de dessins animés, c'est d'abord un succès en bande dessinée. Et Dragon Ball, c'est un des personnages de cette revue mythique Weekly Shonen Jump. Vous publiez d'ailleurs les mémoires d'un des rédacteurs en chef emblématiques de cette revue, celui qui était aux commandes quand cette revue connaissait son âge d'or, c'est-à-dire les années 80, et c'est 6 millions d'exemplaires par numéro. Dragon Ball, mais en quelle année ?
Alors là, on est en 86-87.
Donc on est en plein âge d'or,
tout à fait,
de cette revue. Et est-ce que pour le reste des super-héros, on est vraiment dans cette culture pop ?
Alors, mon compère en parlera sûrement mieux que moi, mais il y a beaucoup d'éditeurs de manga et Monsieur Goto en tête qui disent aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à avoir des bons éditeurs de manga parce qu'ils ont une culture manga. Alors qu'à l'époque, les éditeurs qui aidaient à inspirer les auteurs, c'était des gens qui avaient de la culture cinéma, de la culture classique, de la culture littéraire, etc., etc. Osamu Tezuka lui-même, par exemple, était un très grand lecteur de comics américains.
Oui, Nicolas Télop.
Oui, oui, et puis un amateur de cinéma aussi. Il passait à la fin de la guerre ses journées entières au cinéma pour voir des films, mais aussi des dessins animés. Disney, en l'occurrence, c'est une de ses énormes influences. Et en ce qui concerne Astro Boy, c'est la vision de Pinocchio qui va en quelque sorte être un élément déclencheur pour se dire « Ah tiens, ce robot, il peut être humanisé, il peut avoir l'air d'un petit garçon finalement ».
Alors, si aujourd'hui, il y a près de 19 millions de mangas vendus...
En France, oui.
En France.
C'est l'année record 2019.
C'est l'année record. Ce n'est pas le cas au Japon. Au Japon, en revanche...
Ça baisse un petit peu.
Ça baisse un peu. Mmh. Hein. Mais comment, par exemple, s'il fallait parler du dernier super-héros fabriqué au Japon par les éditeurs de mangas. Prenons l'exemple.
Le dernier, qui est le plus emblématique, hein, qui a vraiment marqué le monde entier lorsqu'il apparaît en 2016, voilà, c'est, enfin, quand il apparaît en 2016, globalement, j'ai envie de dire, c'est One Punch Man, effectivement. Ouais. Qui, à la base, part d'un gag. C'est un auteur de manga non publié qui fait des petits blogs dans son coin, qui crée un super-héros dépressif, puis il s'appelle One Punch Man. Il dit, ah, ça serait marrant, tiens, un super-héros qui déprime parce qu'il tue tout le monde d'un coup de poing, donc il s'ennuie. Et il est repéré comme ça. Et c'est vraiment l'envie de faire rire avec un socle pop culturel commun. C'est-à-dire que tout le monde connaît les super-héros. Hein, voilà, il a une cape, il a des gants, des bottes, enfin, il a vraiment un costume de super-héros. Sauf que, qu'est-ce qui définit un héros, c'est les épreuves qu'il doit affronter. Là, il y a aucune épreuve à affronter, donc c'est un super-héros malheureux. C'est juste pour se moquer.
Ça résume bien l'époque, en plus.
Oui, alors ça, c'est surtout, je pense vraiment, sans vouloir suranalyser, c'est vraiment une volonté de se moquer du super-héroïsme, parce que c'est depuis la fin des années 2000, c'est vraiment très très à la mode le super-héros, notamment le super-héros à l'américaine.
Ouais, c'est vraiment à la mode, vous.
Ah bah oui, avec le cinéma, avec voilà les milliards de dollars engrangés par les Avengers, par Spider-Man, par tout ça. Ça fait aujourd'hui les super-héros américains sont omniprésents dans la pop culture et même dans la culture d'une manière générale. Il y a eu un retour en force des super-héros américains dès le début des années 2000.
Et donc dans le manga, on se moque d'eux.
Complètement. On se moque complètement des super-héros classiques. One Punch Man montre les super-héros sous un jour finalement assez peu flatteur, quoi. Ceux qui sont très braves et qui veulent se donner pour le bien commun, etc., sont tournés en ridicule parce que on les montre comme des espèces de drama queen qui veulent toujours se sacrifier alors qu'il n'y a pas besoin. Y en a d'autres qui veulent devenir des héros juste pour être connus ou juste pour être riches, etc. Et le héros qui, donc One Punch Man, lui, il arrive au milieu de tout ça. Il comprend rien parce que lui, il voulait juste être un super-héros parce qu'il trouvait ça super. Ça le motivait dans la vie. Et au final, il se rend compte que comme il n'y a pas d'enjeu, puisqu'il gagne tout le temps, il s'ennuie en fait. C'est à quoi bon sauver le monde si personne ne le sait? C'est-à-dire que dès qu'une menace apparaît, il la détruit tellement vite qu'il n'a droit à aucun honneur. Il n'est reconnu par personne. C'est-à-dire qu'il y a d'autres héros qui font beaucoup moins de choses que lui, mais qui vont sauver une vieille dame qui allait se faire renverser par une voiture. Tout le monde le voit, tout le monde le filme, le met sur Internet. Donc le gars devient super connu, populaire, etc. Alors que One Punch Man, il va arrêter un météorite qui tombe sur la Terre, mais personne le voit, puisque tout le monde est parti se planquer. Et il l'a explosé d'un seul coup, donc personne l'a vu. Il transpire même pas, donc on peut pas dire « Ah, c'est lui qui nous a sauvés ». Donc voilà, il est malheureux et il trouve tout ça inepte finalement. Donc c'est assez amusant.
Nicolas, t'es là pour terminer. Est-ce que, parce que là, en entendant Grégoire Hello nous parler de One Punch Man, il décrit aussi notre monde, notre époque. Est-ce que les héros des mangas japonais nous disent quelque chose de l'époque où ils sont nés?
Oui, tout à fait. Bah, dans le cas d'Astro, c'est le contexte de l'après-guerre, c'est... cette catastrophe qui a été la fin de la défaite quoi de la guerre par le Japon, par les deux bombes atomiques qui ont évidemment eu un impact sur le moral qui était phénoménal, et puis aussi le fait que l'empereur Hirohito à l'époque avoue en public que finalement il n'est pas un être divin mais un homme comme les autres. Enfin tout ça c'est une sorte d'effondrement de la société, en tout cas des repères qui étaient ceux de la société dans la première moitié du XXe siècle. Et je pense qu'Astro, c'est celui qui vient justement apporter de nouveaux repères à une enfance qui, à l'époque, est complètement désœuvrée et sans perspective.
Alors, Astro Boy répond à une demande japonaise, c'est dans les années 50, mais aujourd'hui, maintenant que le manga est devenu un phénomène mondial, est-ce que dans les maisons d'édition de manga au Japon, quand on fabrique des super-héros, quand on étudie des personnages ou quand on a envie de lancer des nouvelles bandes dessinées, on pense global, on pense au monde entier, ou ça reste quand même très orienté vers le public japonais?
Alors, le manga a beau être très très puissant en France et en Amérique, en Allemagne, et il y a un gros secteur de développement en Amérique du Sud aujourd'hui, les Japonais restent malgré tout très centrés sur eux-mêmes, tout simplement parce que déjà on est très fiers d'avoir vendu 19 millions de mangas en France l'année dernière. 19 millions de mangas, c'est à peine ce qu'a vendu juste One Piece au Japon. Donc, on est encore très très loin des scores japonais. Il faut voir aussi une chose, c'est que les Japonais, plusieurs fois, ont déjà essayé de faire des héros pour les autres. Voilà, ça n'a jamais marché. Parce que ils pensent savoir ce qu'on veut, mais en fait, ce qu'on veut, c'est parce que eux pensent qu'on veut. C'est ce qu'on attend du manga, c'est justement d'être surpris par des personnages auxquels un auteur français n'aurait pas forcément pu penser. C'est un peu tordu ce que je dis, mais...
Non,
voilà.
Pas tout à fait, c'est très clair, au contraire. Nicolas Télop, vous acquiescez aussi?
Ah oui, tout à fait. Et puis de toute façon, je pense que naturellement, ils sont capables de créer des héros qui sont universels et qui réussissent à capter l'attention du public du monde entier, quoi.
Aujourd'hui, la grande mode au Japon, c'est ce qu'on appelle le isekai. C'est quelque chose qui s'exporte très mal. C'est alors le plus beau représentant, c'est un manga qu'on a sorti il y a quelques années qui s'appelle Moi quand je me réincarne en slime. Donc c'est un genre à part entière dans le manga, mais aussi dans la littérature japonaise, où un personnage comme vous et moi qui est pas très heureux de sa vie, en général c'est des quarantenaires un peu désabusés, vont mourir, donc assassinés, renversés par une bagnole, etc. Ils vont se réincarner dans un autre monde, un monde fantastique, et où ils vont avoir une deuxième chance de vivre une meilleure vie. Et dans le manga que j'évoque, Moi quand je me réincarne en slime, qui est un carton absolu au Japon, C'est l'histoire d'un employé de bureau un peu malheureux qui se fait poignarder dans la rue par un voleur. Et il se réincarne en une espèce de petite boule gélatineuse dans un monde de fantasy avec des elfes, des dragons, etc. Et il va vivre sa vie là. Et c'est une grande épopée incroyable.
Et c'est addictif à ce point, je vois.
Ah oui, 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 très... C'est totalement fascinant, quoi, parce que il y a un univers parallèle qui se crée et qui en même temps parle de nous, parle du nôtre.
Le réveil culturel de Tofik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Astro Boy, cœur de fer de Nicolas Tellop dans la collection La Fabrique des Héros, c'est édité par les Impressions Nouvelles. Et puis les mémoires d'Hiroki Goto et l'histoire du Weekly Shonen Jump, disponible enfin en France. Très beau livre, grâce à vos éditions Grégoire Hello. Merci d'être venu.
Merci à vous.
Et merci Nicolas Tellop d'être venu. On se retrouve lundi. D'ici là, bon vendredi, bon week-end avec France Culture.